J'aimerais parler ce matin sur Élie à Sarepta. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 8. « Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. » Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Nous devons parfois quitter une bonne situation sans en comprendre la raison, du moins dans un premier temps. Élie était au torrent de Kérit, il y avait de l'eau, il y avait des corbeaux qui venaient lui apporter de la nourriture le matin et le soir. Mais voilà qu'au bout d'un certain temps, ce torrent est devenu complètement sec. Alors, c'était une épreuve, comme nous passons parfois par des épreuves. Et maintenant, ce lieu qui était un lieu de bénédiction est devenu pour Élie un lieu sec. Et la question qu'il peut se poser, mais comment Dieu va-t-il pourvoir à mes besoins maintenant que le torrent est sec? L'épreuve. La réponse de Dieu, c'est qu'il fallait partir. Il fallait quitter cet endroit où il y avait eu cette bénédiction pendant un temps. Mais maintenant, il y avait une autre étape. Et quelquefois, quand il faut partir, nous voulons rester. Et quand il faut rester, nous voulons partir. Mais ce qui est important, c'est de se mettre au timing de Dieu. Car si Élie avait voulu rester à l'endroit où il avait connu la bénédiction, à ce moment-là, c'est-à-dire le torrent de Kérit, eh bien, il serait mort de dessèchement ici, puisque le torrent était à sec. Dieu avait terminé avec cet endroit. Et si il avait voulu partir plus tôt, ce n'était pas le moment. S'il avait voulu partir plus tard, ce n'était pas non plus le moment. Donc notre vie doit se caler en fonction du timing que Dieu nous donne et non pas de ce que nous voulons faire ou que nous pensons. Alors le premier point que je vois dans ce texte, Élie entend la voix de Dieu au verset 8. Élie ne part pas comme cela sur un coup de tête, on l'a compris, il a reçu une direction pour sa vie, car quand on prend des décisions sur des impulsions, des coups de tête, souvent on s'engage trop tôt, ou alors on a mis notre confiance dans une personne qui ne s'est pas avérée la personne qui convenait, on a été déçu, et on a finalement fait ce que l'on pensait, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Or, Élie, c'est différent. Il reçoit d'abord une parole qui va lui indiquer la direction à suivre, la direction pour sa vie. Je pense que nous aussi, nous avons besoin d'entendre de Dieu une parole qui va nous conduire, qui va nous montrer la voie pour notre vie. Et comment faire pour entendre Dieu? Il y a tellement de parasites, il y a tellement de voix discordantes qui sont autour de nous, des messages contradictoires. La voix de l'ennemi, par exemple, l'ennemi a insufflé à Pierre une pensée lorsque Jésus disait qu'il allait bientôt mourir à la croix, que c'était ainsi, c'était le plan de Dieu pour le salut du monde. Mais Pierre a eu cette pensée, mais cela ne t'arrivera pas, mais ce n'était pas une pensée de Dieu. Donc il n'a pas entendu Dieu l'inspirer, mais Jésus lui dit, arrière de moi Satan, c'était une pensée du malin qui s'est introduite subrepticement dans son esprit et qui l'a conduit à s'opposer au plan de Dieu. Et parfois, nous sommes conduits, malgré nous, à faire, non pas la volonté de Dieu, mais inspirés par des pensées humaines, des pensées charnelles, ou alors les pensées de l'adversaire. On retrouve cette même parole dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, lorsqu'il est question du serpent qui va séduire Ève. Et là, une voix se fait entendre. Dieu a-t-il réellement dit ? Ève entend une voix, mais ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du malin. C'est la voix de l'adversaire. Elle veut le séduire. L'adversaire veut le séduire, la tromper, lui faire croire que Dieu, finalement, n'a pas dit toutes les choses qu'il avait prononcées. Il commence à insinuer le doute. Dieu, vous pouvez manger de l'arbre qui a été interdit parce que vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront, vous verrez des choses nouvelles. Tout cela, c'était des mensonges. Donc, pour entendre Dieu, nous devons prier, bien sûr, rester humbles, chercher la face de Dieu et recevoir dans notre cœur la direction de Dieu pour notre vie. Le deuxième point, c'est que Dieu a un plan pour nous. Le torrent était maintenant complètement à sec. Il fallait une nouvelle étape. Alors, Élie aurait pu regretter, se dire que c'était bien ce lieu de bénédiction, penser que c'était mieux avant. Quelquefois, on regrette. Oui, le passé, c'est vrai, gloire à Dieu, il y a eu de bonnes choses, en tout cas dans le passé. Mais maintenant, Élie doit aller de l'avant, dans une nouvelle direction dans sa vie. Parce que Dieu a un plan pour l'amener plus loin. Et Dieu n'est pas limité par les circonstances que nous connaissons. Il nous conduit à travers les circonstances. Quelquefois, par exemple, il nous arrive de devoir arrêter un travail quelque part. Voilà, il n'y a plus de travail où on est licencié économique ou alors on n'est pas pris là où on pensait. Mais il ne faut pas regretter parce que c'est certainement que Dieu a un autre plan pour nous. Nous, des fois, on a des objectifs, on a pensé que là, c'était une bonne place, que c'était peut-être bien pour la carrière, mais Dieu ne l'a pas permis. Et il a orienté d'une autre manière, il a ouvert une porte dans une autre direction. Eh bien ça, il faut être sensible à la volonté de Dieu et ne pas nécessairement s'entêter dans des volontés qui sont les nôtres. Et quelquefois, quand la porte s'ouvre dans une autre direction, eh bien Dieu permet là une évolution beaucoup plus favorable que la première porte qu'on pensait la bonne. Ou quelquefois, nous voulons rester comme Élie qui était au torrent de Kérit, dans ce lieu où nous avons connu un temps de bénédiction. Mais s'il était resté là plus longtemps, il serait mort de faim, il serait mort de soif, parce que Dieu, en fait, voulait qu'il soit dans un autre endroit. J'ai noté un verset du Nouveau Testament concernant Jésus, dont il est dit qu'il ne restait pas toujours au même endroit. Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, parce qu'il était conduit par Dieu. Et il y avait un temps où il devait rester dans ce village, et puis un temps où il devait partir. Et quelquefois, il n'était pas bien reçu. Quelquefois, il devait secouer la poussière de ses pieds et aller dans un autre endroit. Ça sera pareil pour nous. Eh bien, nous devrons accepter ces événements et prendre les circonstances que Dieu permet, bien comme une nouvelle étape, eh bien, on a terminé ici, eh bien, on va continuer plus loin. Et si la porte se ferme ici, eh bien, une autre va s'ouvrir plus loin. Il y avait des besoins ailleurs. Ici, Dieu va conduire Élie, son serviteur, hors du pays d'Israël, dans un endroit qui n'est pas très bien considéré. C'est au verset 9. « Va à Sarepta, qui appartient à Sidon. » Et il faut savoir que Sidon, c'était une ville dont le peuple était ennemi d'Israël. Sidon, c'est donc en Phénicie, au nord d'Israël, à l'extérieur du pays. C'est une ville de mauvaise réputation, en tout cas pour un croyant, pour un juif qui irait là-bas. Et cette ville, c'est la ville aussi des faux dieux comme les Baal et les Astartés. Autre chose aussi, la femme Jézabel qui règne sur le pays d'Israël, en fait, vient de Sidon, dont le père était roi de Sidon, et elle règne maintenant sur Israël, et elle introduit ses faux dieux dans le pays. Donc, pour Élie, c'est un peu paradoxal d'aller dans une terre étrangère, dans un pays qui ne reconnaît pas Dieu. Il pouvait se dire, mais ce n'est pas le bon endroit pour moi. Quand on raisonne de manière humaine, on pourrait dire, ce n'est certainement pas la volonté de Dieu pour moi. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous, et Dieu va utiliser ce que nous croyons être mauvais, en fait, il va l'utiliser pour notre bien. Quelquefois, on se plaint, oui, mais si vous saviez à mon travail, mes collègues, combien ils sont durs, ou ils sont difficiles avec moi, ou combien c'est difficile avec le responsable, le patron, l'entreprise, etc. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. En tout cas, ce sont des étapes qu'il nous faut passer, et ensuite les choses changeront. Simplement, il faut faire confiance à Dieu à chaque pas. Alors Dieu va utiliser ici une veuve païenne, c'est un petit peu perturbant, troublant pour le prophète Élie, une veuve païenne pour prendre soin d'Élie, pour le nourrir, pour s'occuper de lui. Et les moyens de Dieu ne sont pas les nôtres. Et certainement, Élie n'aurait pas choisi ce moyen-là. Parce que Dieu peut même utiliser nos ennemis pour nous bénir. Voyez, par exemple, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a eu Moïse qui a été appelé par Dieu pour délivrer le peuple qui était sous l'oppression de Pharaon depuis plus de 400 ans. Et lorsque Moïse arrive, Pharaon résiste et ne veut pas laisser partir le peuple. Et c'est là qu'il y a eu les 10 plaies, 10 grandes catastrophes qui se sont abattues sur l'Égypte. Et à la dernière plaie, c'est-à-dire la mort de tous les premiers-nés, que ce soit le bétail ou les enfants des Égyptiens, le Pharaon cède et laisse partir le peuple. Et il y a un verset qui dit ceci dans Exode chapitre 12 et au verset 35. « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, et qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Ce que font là les Égyptiens, ce n'est pas normal, car les Égyptiens haïssent les Hébreux. Mais Dieu a fait trouver faveur aux yeux des Égyptiens, le peuple d'Israël, si bien que les Égyptiens, qui sont pourtant des ennemis, vont leur donner des vases. Ici, il est dit des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, et il leur donne tout cela, et il leur dit « partez de chez nous ». Mais en leur disant de partir, il leur donne, en fait, des biens matériels. Eh bien, c'est Dieu qui a poussé les Égyptiens à agir comme cela. De même, Dieu peut aussi agir, même sur nos ennemis, pour qu'ils bénissent le peuple de Dieu. On le trouve à plusieurs reprises, avec Balaam, par exemple. Balaam, qui était un roi ennemi du peuple de Dieu, qui va chercher un faux prophète qui s'appelait Balaak. Et il dit à Balaak, « Viens maudire le peuple d'Israël. » À plusieurs reprises, il pousse Balaak, donc, à maudire. Alors Balaak dit, tu vas me construire 7 autels, on va y mettre des taureaux. Et à chaque fois que Balaam voulait maudire, eh bien Dieu mettait des paroles de bénédiction dans sa bouche. Si bien qu'il partait pour maudire et il bénissait le peuple de Dieu. Alors le roi Balaak disait, mais je t'ai pris pour maudire et voici tu bénis. Alors il l'emmène plus loin et il lui dit, maintenant maudis-moi ce peuple. Et il n'arrivait pas à maudire. En fait, il était venu pour maudire, mais c'était des paroles de bénédiction. Vous voyez, Dieu était en train de changer les paroles de malédiction en bénédiction. Et quand le roi Balaak entend à nouveau des bénédictions, il dit, mais ne le maudis pas, mais du moins, ne le bénis pas. Il n'arrivait pas à le maudire. Et troisième tentative, à nouveau, il vient pour le maudire, à nouveau des paroles de bénédiction. Alors le roi, il est déconcerté. C'est pour maudire que je t'ai appelé et tu les as bénis 3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu change la malédiction en bénédiction. Il utilise même des ennemis pour bénir le peuple de Dieu. Dieu dirige des païens pour nous être favorables. Vous l'avez dans l'histoire de Joseph, qui va se retrouver esclave, vendu en Égypte, vendu par ses frères, et Potiphar va le repérer sur le marché aux esclaves et le prendre chez lui. Et quand Joseph est chez Potiphar, eh bien, par la grâce de Dieu qui est sur Joseph, la maison de Potiphar va prospérer, les champs vont produire des bons fruits, il va y avoir beaucoup de récoltes, beaucoup d'abondance, et Joseph va bien gérer les choses. Et la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. Et dans Genèse 39,4, c'est dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, et l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Mais c'est un esclave. C'est quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré, mais Dieu a permis que Joseph bien trouve grâce auprès du maître, auprès du responsable, mais qui est un ennemi, en fait, qui est du peuple des Égyptiens. Et c'est pourquoi Dieu peut permettre que nous trouvions grâce aussi à des personnes de notre entourage qui ne sont pas du peuple de Dieu, mais c'est Dieu qui leur mettra à cœur, parce que Dieu dirige aussi les cœurs, il incline les cœurs des rois, dit la parole de Dieu, et cela nous permet d'évoluer. En tout cas, de son côté, Joseph était intègre, il était droit, il faisait vraiment le travail consciencieusement, même quand personne ne le voyait, et ça, c'est vraiment toutes les qualités d'un chrétien. Puis, brutalement, la porte de chez Potiphar va se refermer. Il va être accusé faussement d'adultère avec la femme de Potiphar et finalement, il va être jeté en prison. La porte se referme alors qu'il est béni. Et à ce moment-là, Joseph aurait pu devenir amer. Mais ne regrettez pas une porte qui se ferme parce que, en fait, Dieu voulait l'emmener plus loin. Mais Joseph l'ignore encore car, de notre point de vue, on pourrait dire que là où on est, c'est vraiment la bonne place. En tout cas, lui, il y avait une certaine bénédiction. C'est là qu'il devait être. Mais Dieu voulait le pousser plus loin. Et pour le pousser plus loin, il y a eu cet événement qui va le pousser en prison. En fait, il est allé plus bas. Et là, dans la prison, il pouvait penser, mais pourquoi Dieu l'a permis ? Regretter sa situation passée, peut-être considéré comme un échec. Et si Dieu l'avait laissé chez Potiphar ? Et peut-être ça aurait été beaucoup mieux. Mais en réalité, non. Si Dieu l'avait laissé chez Potiphar, il n'aurait pas rencontré les chansons dans la prison. Et c'est par les chansons dans la prison qu'il va être mis en contact avec Pharaon. Donc Dieu avait besoin que Joseph se retrouve ici pour rencontrer les chansons. Sauf que nous ne savons pas les choses. Nous ne comprenons pas pourquoi tel événement arrive. Mais en tout cas, Dieu permet, comme cela, les rencontres nécessaires, et il fallait que ça se passe ainsi. Et du jour au lendemain, Joseph a pu sortir de la prison par la volonté de Dieu, parce que les chansons s'est rappelé que dans la prison, il y avait un certain Joseph qui racontait les songes. Voilà comment Dieu conduit. Dieu, donc, permet des rencontres, il permet des changements, des situations pour nous faire évoluer. Un troisième point que je vois dans ce texte, c'est la misère de cette femme. Quand même, Dieu envoie le prophète chez une femme qui n'a rien. Elle vit dans la misère. Est-ce que Dieu ne se serait pas trompé de l'envoyer chez une pauvre veuve ? Encore si c'était une personne aisée, une personne qui a des biens, une personne qui a de quoi vivre, qui a de la nourriture. Elle n'a rien. Elle n'a même pas assez pour manger elle-même. Et Dieu l'envoie chez cette femme, une pauvre veuve qui n'arrive pas à se nourrir. Comment comprendre la volonté de Dieu ? Comment comprendre les plans de Dieu ? Il nous échappe. Cette femme veut bien lui donner de l'eau, mais quand Élie lui demande du pain, elle dit non, je n'ai pas de pain. Je n'ai même pas pour moi, pour mon enfant, nous allons mourir bientôt, nous n'avons rien à manger. Il y a un paradoxe chez cette femme qui nous parle, au verset 12. Lorsqu'elle proclame que Dieu est vivant, en même temps, elle dit « Dieu est vivant » et en même temps, elle dit que pour elle, il n'y a pas d'issue. Voilà un paradoxe. Comment peut-on croire que Dieu est vivant, qu'il est tout-puissant et en même temps ne pas croire qu'il va pourvoir à nos besoins ? Elle dit pour elle qu'il n'y a pas d'issue. On retrouve la même chose dans le Nouveau Testament lorsque Jésus rencontre le père d'un enfant qui est lunatique, possédé d'un esprit impur qui le pousse dans le feu, dans l'eau. Et les disciples n'ont pas pu libérer cet enfant. Et le Père vient vers Jésus en le suppliant et en disant, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On voit le paradoxe qui se manifeste. En même temps, il dit qu'il croit en Dieu, qu'il croit en Jésus, en sa puissance, et en même temps, il ne croit pas vraiment, il est incrédule, il n'arrive pas à faire pleinement confiance. Eh bien, c'est un peu le cas de cette femme. Elle peut dire « l'Éternel est vivant » et en même temps, elle n'arrive pas à croire quand elle est dans la situation. Et c'est peut-être le cas de plusieurs d'entre nous quand nous sommes confrontés à des difficultés, car nous pouvons tous dire « l'Éternel est vivant » et chanter les louanges de l'Éternel, mais quand nous sommes confrontés dans l'épreuve, c'est souvent l'incrédulité qui surgit, le doute qui nous assaille, et on n'arrive pas vraiment à croire que Dieu va le faire pour nous. Peut-être pour d'autres, peut-être ailleurs, mais en tout cas, pas pour nous. Alors c'est une chose de croire quand tout va bien, c'est autre chose de croire quand tout va mal. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire continuer à croire, même dans les déserts, même quand il y a la famine, même quand il y a la sécheresse. Eh bien, l'Éternel est vivant, oui, alors nous croyons qu'il pourvoira à tous nos besoins. Alors, cette femme avait besoin de réconfort, elle avait besoin d'évoluer aussi dans sa foi. Et rapidement, le prophète va lui parler. Elle va dire, ben, moi je n'ai rien. Elle a vite fait le tour, une poignée de farine, un peu d'huile. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec si peu? Et souvent, nous méprisons les petites choses que nous avons. Mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire de grandes choses. Et on le voit très bien dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit aux disciples, avec une foule qui était là, qui n'avait pas à manger, « Allez vous-même leur donner à manger. » Ce n'est pas la peine de les renvoyer chez eux, ce n'est pas la peine de les renvoyer au village. « Allez, donnez-leur vous-même à manger. » Mais comment faire? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Et les disciples disaient, « Mais que peut-on faire avec si peu de choses ?» Et c'est un peu le cas de cette femme. Que peut-on faire avec ce peu d'huile, avec ce peu de farine? Oui, mais Jésus a prié Dieu, on a apporté les 5 pains et les 2 poissons, on les a mis dans les mains du Seigneur, et le Seigneur a prié, et les pains et les poissons se sont multipliés par le miracle de Dieu. Eh bien, c'est comme ça que ça va se passer pour cette femme. Dieu n'a pas besoin de beaucoup, mais il faut lui faire déjà confiance avec le peu que nous avons, et il cherche surtout des personnes qui croient. Des personnes qui disent « Seigneur, je te fais confiance et je sais que tu agiras ». En même temps, cette femme est remplie de pensées négatives. Par exemple, au verset 12, à la fin du verset, elle dit « Je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons et après quoi nous mourrons ». Voilà la pensée de cette femme qui est orientée vers la fin. Donc, elle dit « Ce n'est pas possible, il n'y a pas d'issue ». Et le diable vous fera toujours voir que ce n'est pas possible et que vous ne vous en sortirez pas. Mais j'aime à rappeler ceci, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'issue qu'il n'y a pas d'issue. En tout cas, elle ne la voit pas, mais l'issue, elle existe et elle est entre les mains de Dieu. Alors, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être on peut dire, je ne vois pas d'issue, mais je crois qu'il y a une issue. Je crois que Dieu a une issue entre ses mains. Certains se dévalorisent trop, comme cette femme, en disant « ce n'est pas la peine, à quoi ça sert de vivre ? J'ai raté ma vie, à quoi bon continuer ?» Nos pensées négatives. Naturellement, nos pensées sont négatives. Nous doutons, nous réagissons mal ou des pensées de découragement. Que faire ? Eh bien, nous devons agir sur nos pensées et ne pas laisser nos pensées nous conduire. Par exemple, Paul exhorte les chrétiens, il dit « encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. » Jamais Paul ne dit « découragez-vous les uns les autres ». Jamais. Au contraire. L'inverse. Il dit l'inverse. Mais naturellement, vous voyez, quand les 2 disciples d'Emmaüs étaient sur le chemin donc pour aller dans ce village d'Emmaüs, Jésus vient à la rencontre et entre eux, ils se décourageaient l'un et l'autre. Parce que Jésus était mort, il ne savait pas encore qu'il était ressuscité, il n'avait que des paroles de découragement. Et Jésus vient les réconforter, les encourager, leur donner de l'espérance. Alors c'est ça l'attitude du véritable chrétien, s'encourager les uns les autres. On a un chrétien dans le Nouveau Testament qui s'appelait Barnabas, fils d'exhortation ou fils d'encouragement. Voilà quelqu'un qui aimait encourager son prochain, C'est grâce à Barnabas que Paul a pu être introduit auprès des apôtres, parce que quand Paul s'est converti, les gens ne croyaient pas qu'il était vraiment chrétien. Et à Jérusalem, ils n'ont pas voulu le recevoir. Mais il y avait un fils d'exhortation, un fils d'encouragement, Barnabas, qui est allé voir Paul, qui est allé voir les apôtres, qui les a mis en relation et qui a permis que Paul aille plus loin. Eh bien, c'est cela, le véritable chrétien, il encourage les autres. Et puis, entretenir notre esprit par de bonnes choses. Ça, c'est aussi dans la parole. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Si nous ne le faisons pas, les pensées, elles vont plus bas que terre. Mais si nous les entretenons par des choses élevées, nos pensées s'élèvent vers Dieu. Ainsi, quand viennent les mauvaises nouvelles, eh bien, nous les prenons avec sérénité, avec paix, avec calme, parce que nous avons entretenu nos pensées des choses de Dieu. Et comme ça, nous sommes encourageants. Et puis, il y a un beau verset aussi de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, qui nous dit que nous devons prendre une victoire sur nos pensées. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, nos pensées sont vagabondes, elles vont dans des mauvaises directions, elles sont assez négatives pour nous montrer que tout est sombre et noir. Eh bien, ces pensées, nous allons les attraper captives, les capturer et les soumettre à la pensée de Christ. Et qu'est-ce que c'est que la pensée de Christ ? C'est « tout est possible à celui qui croit ». Je marche non par la vue, mais par la foi. Et donc, nous devons renverser les pensées humaines qui sont charnelles, qui sont terrestres, qui sont orientées vers les choses de la terre, et y mettre les bonnes pensées de Dieu, qui sont des pensées encourageantes, des pensées de bénédiction, des pensées qui vont permettre un avancement. Alors, je pense à un quatrième élément dans ce passage, c'est la richesse d'Élie. Nous avons dit que cet homme est allé chez une femme qui n'a rien. Elle est pauvre, elle n'a même pas de quoi subvenir à ses propres besoins. Et Dieu choisit cette femme pour nourrir Élie. Encore quelque chose qui nous échappe. Mais Élie vient, certes il n'a rien, mais il a une richesse que cette femme n'a pas. Il ne vient pas avec de l'or et de l'argent, mais il vient avec la présence de Dieu, avec Jésus. Pour nous chrétiens, nous avons Jésus, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il vient avec la présence de Dieu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Pierre et Jean lorsqu'ils allaient au temple. Ils avaient le Seigneur en eux, ils croyaient en Jésus, ils se rendaient à une réunion de prière, et devant le temple, un impotent était là. Et cet impotent faisait la manche pour recevoir un petit peu d'argent, pour subvenir à ses besoins, mais Pierre et Jean n'avaient pas d'argent. Et il regarde cet homme, mais avec un regard d'amour, de compassion, inspiré par Christ. Et il le voit souffrant. Pierre lui dit, c'est Actes 3:6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ils ont quelque chose de plus que l'argent et que l'or. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Voilà ce que nous avons. Nous avons la présence de Jésus-Christ de Nazareth. « Lève-toi et marche. » Le miracle s'opère. Et ça, il ne pouvait pas l'acheter avec de l'argent ou avec de l'or. Et la richesse de la foi, cet homme a été guéri miraculeusement par la prière, et la richesse d'Élie, c'est la foi. Et Élie va donner une parole de foi à cette femme. Il est saisi par l'Esprit, et il lui donne cette parole. Ce n'est pas une parole qui lui passe par la tête, comme des fois on a des pensées qui nous viennent, mais c'est une parole de Dieu qui est inspirée. Ainsi par l'Éternel, c'est au verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas la parole d'Élie, c'est la parole de Dieu. Il reçoit donc dans son esprit une parole. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Voilà comment vient cet homme de Dieu. Il vient avec une parole de Dieu. Il est rempli de foi. Il est rempli du Seigneur. Et c'est ça dont nous avons besoin. Il ne dit pas des commentaires ou ce qui lui passe par la tête, mais il dit ce que l'Esprit lui communique. On a besoin d'être des canaux entre les mains du Saint-Esprit pour dire les paroles. Le Seigneur va nous donner une pensée, une parole. Eh bien, on peut la dire par la foi de la part de Dieu. Mais cette foi est éprouvée. La foi de cette femme va être éprouvée parce que Élie va lui demander après cela, eh bien, On a entendu la parole de Dieu. Alors, fais-moi d'abord un gâteau, ensuite tu prépares pour toi, et après tu verras que ça va se multiplier. Donc elle devait déjà faire le premier pas de foi de faire ce gâteau pour le prophète. Ensuite, elle s'occupera de ses propres besoins. Mais si cette femme n'avait pas pris la parole de Dieu au mot, si elle avait décidé de d'abord commencer par ses propres besoins, mais peut-être que, elle n'ayant pas obéi, la parole de Dieu n'aurait pas eu d'effet et le miracle ne se serait pas produit. Donc, si elle avait raisonné à ce moment-là, parce que humainement, la sagesse, c'était d'abord de pourvoir à elle et son fils, eh bien, si elle avait raisonné tout simplement de manière terrestre, peut-être qu'elle serait morte à cause de cela. Les principes spirituels, ils sont là. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu au mot. Et là, la raison achoppe. La sagesse humaine est contrariée. Ce n'est pas logique, mais c'est Dieu qui l'a déterminé. Voilà, dans cet ordre. D'abord le prophète, ensuite toi et tes enfants, et tu vas voir que le miracle va s'opérer. Alors là, tout vous dit, c'est impossible. La foi est éprouvée. Eh bien, elle l'a fait. Et Dieu a béni son obéissance. Mais notre foi sera éprouvée. Et qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons prendre la parole de Dieu au mot, nous aussi? Car certains abandonnent quand la foi est éprouvée. Je pense à Démas, dont Paul dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Sa foi a été éprouvée, mais lui, il n'a pas été comme cette femme. Il n'a pas pris la parole de Dieu au mot, il a préféré décliner, il a préféré abandonner. Qu'allez-vous faire quand la foi est éprouvée? Prenons la parole de Dieu au mot, faisons confiance au Seigneur. Un dernier exemple qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est celui de Jésus, lorsqu'il est dans le temple, face au tronc où les gens mettaient de l'argent. Et il voit des riches qui mettent de l'argent, parce que c'était bien de se faire voir. Et puis une pauvre veuve qui vient mettre 2 pièces. Et Jésus parle aux disciples, c'est dans Marc chapitre 12, verset 43. Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve, on retrouve encore une pauvre veuve justement, comme dans le livre des rois. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » On est un peu dans le même cas de figure que cette femme. Il y avait un pas de foi, il y avait un moment où elle a mis de son nécessaire, où elle a fait confiance à Dieu, elle a pris la parole de Dieu au mot. Bien sûr, tout cela, ça part d'une parole. Ce ne sont pas des actes de folie ou insensés, mais c'est en s'appuyant sur les promesses et les paroles de Dieu. En fait, c'est de la sagesse. Et cette femme a été bénie et honorée, dans les deux cas d'ailleurs, que ce soit dans le livre des rois ou cette pauvre veuve que Jésus mentionne, bien, elles ont été toutes deux bénies dans leur acte de foi. Donc la femme, la pauvre veuve qui a accueilli Élie, a vécu un miracle dans un temps de sécheresse. Elle a fait aussi son pas de foi, car notre foi sera toujours éprouvée. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Elle a pris la parole de Dieu au sérieux. Ce n'était pas la pensée du prophète. Ainsi parle l'Éternel. Ça venait de Dieu. Elle l'a saisi. Elle l'a fait. Et Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Mais si nous désobéissons, si nous prenons la parole de Dieu à la légère, ou alors si nous faisons la moitié, ou alors si nous faisons dans un autre ordre, à notre convenance, eh bien, il n'y a pas la bénédiction qui suivra. Donc, nous devons prendre les choses comme elles viennent, comme Dieu nous les dit, et obéir à sa parole. On va prier un instant. Merci encore, Seigneur, pour cet exemple de cet homme de Dieu que tu as envoyé dans ce pays étranger auprès de cette pauvre veuve. Seigneur, nous croyons que tu nous conduis aussi, parfois de manière étonnante. Parfois, tu utilises même nos ennemis pour nous bénir. Mais Seigneur, nous croyons que notre vie est entre tes mains. Et c'est toi qui décideras du début et de la fin. Et nous ne voulons pas regretter une porte qui s'est peut-être fermée, parce que Seigneur, c'est que tu veux nous emmener plus loin, que tu veux nous emmener dans une autre direction. Seigneur, nous voulons être sensibles à ce que tu veux. Et parfois, Seigneur, nous sommes humiliés, comme Joseph qui est passé en prison. Parfois, nous sommes plus bas que terre. Mais nous savons que c'est toi qui auras le dernier mot et que tu dirigeras toutes choses pour la gloire de ton nom. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons rester fermes et fidèles dans l'obéissance de ta parole, en faisant tout ce que tu nous demandes, en obéissant à tes commandements, en te faisant confiance à chaque jour et en te louant pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité.
dans le nom de Jésus. Amen.